Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Jean de La Fontaine, monument national, ses fables, lieu de mémoire, ses fables, nous les connaissons, nous les avons apprises à l'école. Mais qui a inspiré Jean de La Fontaine? A-t-il tout volé à l'antique Ésope? Ésope, qu'il était laid, qu'il était vilain, cet homme-là. Ésope est-il le père de la fable? Ariane Guyeux-Coppolani, bonjour.
Bonjour.
Ésope, père de la fable. Ou pour le dire autrement, La Fontaine a-t-il tout volé à Ésope? C'est quelque chose que l'on entend régulièrement dès qu'il s'agit des fables de La Fontaine. Quel est votre avis sur cette question?
Alors on l'entend parce que c'est La Fontaine lui-même qui le dit, hein, puisqu'il évoque les héros dont Ésope est le père, et donc il prétend qu'il a tout volé à Ésope. En fait, il y a d'autres éléments de la transmission entre Ésope et La Fontaine, comme d'autres fables latines, mais il est vrai que les fables d'Ésope étaient très publiées dans l'Europe du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque de La Fontaine, et donc il a beaucoup pris à l'Antiquité, ça c'est certain. Mais Ésope lui-même est peut-être un personnage plus légendaire que réel, c'est peut-être pas vraiment un Ésope réel que La Fontaine a emprunté, ce qu'il écrit.
Oui, parce que c'est important de rappeler cette longue temporalité dans l'histoire de la fable. Il y a ces fables antiques qui, en fait, vivent très longtemps. Elles ne sont pas oubliées. Vous venez de nous le dire, elles se retrouvent au Moyen-Âge.
Elles se retrouvent au Moyen-Âge et puis surtout, elles ont toujours circulé en fait. Le premier recueil de fables d'Ésope que nous ayons est en fait d'époque romaine, de l'époque impériale romaine, et il a inspiré des fabulistes latins. Et ensuite, donc au Moyen-Âge, on continue à publier des recueils de fables d'Ésope, on en publie à la Renaissance, mais Ésope lui-même, que nos sources situent vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, n'est pas l'inventeur de la fable. On a des fables plus anciennes dans le monde grec, on en a des Hésiode qui vit sans doute à la fin du 8e, au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. On en a dans des poètes archaïques et tout cela donc est un long cheminement de la fable qui remonte probablement en fait à la Mésopotamie antique, au 2e millénaire où on a déjà des fables, des récits qui ressemblent vraiment à nos fables grecques qui circulent et qui très probablement sont la source au départ de nos fables grecques.
Avec une interrogation toute simple, qu'est-ce qu'une fable ?
Alors, ça c'est une bonne question, effectivement. La définition a pu varier avec le temps. Dans le monde grec, on commence par parler d'ainos. Et ainos, c'est pas un terme très clair, ça n'a pas d'étymologie très claire. Il semblerait que cela soit un petit récit, en général fictif, ou alors tellement loin dans le temps qu'il paraît fictif. Par exemple, dans l'Iliade, il y a le héros Nestor qui est très très vieux, qui, à l'occasion d'un concours, dit « Ah, mais moi, je pourrais faire aussi bien. » Et d'ailleurs, voilà un ainos pour le prouver, et il raconte des exploits de sa jeunesse. Autrement dit, d'abord, c'est très vieux, Nestor, et puis c'est une analogie. C'est quelque chose qu'il a fait il y a longtemps et qui présente une analogie avec la période maintenant. Et ça lui permet de justifier le fait qu'il va pouvoir donner un conseil à ce moment-là. Et c'est un terme que l'on retrouve à plusieurs reprises pour désigner la fable. Donc ce serait un petit récit fictif, un petit récit lointain, un petit récit qui permet une analogie avec la situation présente et qui donc peut s'utiliser dans le discours, souvent pour convaincre. C'est l'impression qu'on a au départ, puis après on se rend compte qu'à l'époque classique, cette idée d'ainos, elle disparaît et qu'on se met à parler simplement de logos ou de mutos, donc de discours ou de récit, et on ne caractérise plus vraiment la fable comme un genre. Mais on ne sait pas sans qu'on puisse exactement dire pourquoi en quelque sorte et quelle évolution cela recouvre.
Dans notre imaginaire, il y a beaucoup d'animaux dans ces fables. Est-ce le cas aussi dans l'Antiquité? En tout cas, est-ce un élément qui nous permet d'identifier ce récit très particulier, celui de la fable?
Oui, c'est quasiment toujours le cas. C'est déjà le cas donc en Mésopotamie au 2e millénaire. Il y a quasiment toujours des animaux dans les fables. Quand il n'y a pas d'animaux, il peut aussi y avoir beaucoup plus rarement des abstractions, comme le printemps par exemple ou l'hiver. Il peut y avoir des hommes dans les fables. On verra que Ésope lui-même peut faire l'objet de fables dans les récits, dans les recueils de fables ésopiques. Mais dans l'ensemble, on passe par le détour du non-humain, on passe par le détour de l'animal. Assez tôt, on passe par le détour de l'animal, donc à Babylone ou en Mésopotamie, et on passe dans le monde grec à partir d'Hésiode, par le détour de l'animal. Hésiode racontant la fable d'un épervier et d'un rossignol. Le rossignol qui supplie l'épervier qui lui dit que de toute façon, il est plus fort et donc il va l'emmener et en faire ce qu'il veut. Et ça, c'est la démonstration de la loi du plus fort.
Puis ça fonctionne bien, les récits. Dès qu'il y a des animaux, c'est tout de suite captivant. Mais c'est une efficacité qui est très intéressante sous couvert d'un récit simple avec des animaux où nous avons immédiatement l'image projetée. Il est possible de glisser un discours beaucoup plus complexe.
Oui, un discours beaucoup plus complexe, un discours dont l'interprétation n'est pas forcément simple. On se rend compte par exemple que dans les recueils de fables qu'on fait à l'époque impériale, on met à la fin ce qu'on appelle un épimition. C'est un peu comme un épilogue et en fait ça va être la moralité de la fable. Et cette moralité de la fable, ben, parfois on se dit mais elle cadre pas vraiment avec cette fable. Nous on n'en a plus la même interprétation. Et c'est sans doute parce qu'en fait la fable elle a beaucoup de sens. En fait elle ne peut être interprétée réellement bien je pense qu'en contexte. C'est un récit qui est à la fois très frappant, très attirant. Il est attirant par son caractère complètement absurde au départ. On sait très bien dans l'Antiquité grecque, on sait très bien en Mésopotamie que les animaux ne parlent pas. Et on utilise des animaux qui agissent comme des animaux, c'est le loup qui mange l'agneau, mais on utilise des animaux qui en même temps vont avoir des préoccupations morales humaines, des préoccupations de relations humaines, résoudre des conflits, ou encore dans le cas du loup qui mange l'agneau, se justifier de manger l'agneau, trouver une bonne raison pour manger l'agneau comme si c'était pas naturellement qu'on mangeait l'agneau, mais parce qu'on a le droit de manger l'agneau. Et c'est ce décalage, sans doute, entre le caractère animal, qui semble naturel, brut, et puis cette capacité de raisonnement, cette capacité de logos, qui fait l'intérêt de la fable, et qui fait aussi, après, vu qu'elle est tellement étonnante, vu qu'elle a un paradoxe, c'est sans doute ça aussi qui ouvre sur une polysémie et une richesse qui nous séduit encore.
Qui nous séduit énormément, vous avez tout à fait raison de le souligner cette semaine, dans le cours de l'histoire La Fontaine, une histoire en héritage. L'Antiquité aux sources de La Fontaine avec Ésope, cet inconnu.
On l'a représenté comme un bouffon bossu. Les auteurs les plus anciens se contentent de dire qu'il était esclave, laid et bègue. Ésope, prétendent certains érudits, a composé ses fables en prose. Il ne les a jamais écrites. On trouve cependant dans l'anthologie quelques vers qui lui sont attribués. Ils portent un accent triste et désabusé.
Et comment sans la mort échapper à la vie ?
Infinie en effet la douleur subie.
S'y soustraire est pénible, autant que l'endurer.
Sans doute est-il beaucoup de beauté et de charme dans la terre et la mer, ces buveuses de larmes, et dans les astres d'or faits pour nous éclairer.
Mais à part ces doux biens offerts par la nature, tout le reste n'est rien qu'épouvante et malheur. Et si quelque bonheur nous advient d'aventure, sans cesse nous épie un sinistre voleur.
Que c'est bien dit par Jean-Paul Coquelin. Ésope, cet inconnu avec Léon Guillot de Say, c'est l'émission Heure de Culture Française en 1961. Et pour nous parler aujourd'hui d'Ésope, le père de la fable, avec un point d'interrogation, Antoine Bisséré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous réfléchissions sur cette idée d'Ésope qui serait l'inspirateur des fables. Mais la question se pose avant tout, que savons-nous de lui ? Ésope est un personnage assez mystérieux.
Oh oui, mystérieux, assurément. Et comme ma collègue l'a très bien dit tout à l'heure, c'est un personnage qui ressortit très largement à la légende. Alors, à l'origine, bien sûr, il y eut sans doute un personnage historique, puisque un certain nombre de témoignages antiques, ceux d'Hérodote par exemple, ou de son disciple Héraclite Dupont, nous délivrent de façon très parcellaire, très fragmentaire, quelques informations que nous pouvons essayer de réunir pour dessiner les contours d'une biographie cohérente. Mais le peu que nous en sachions, c'est que Ésope est sans doute le contemporain de la poétesse Sappho, qu'il a vécu durant la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, qu'il fut sans doute l'esclave de plusieurs maîtres, et qu'après avoir été acheté par un philosophe nommé Xanthos sur l'île de Samos, il gagna sa liberté avant d'être mis à mort par les Delphiens pour un prétexte apparemment fallacieux. Mais l'ensemble de ces informations est susceptible d'être remis en question, et comme les témoignages ne se recoupent que partiellement, il n'est pas parfois jusqu'à la condition servile du personnage qui ne soit remise en question. Et ce qui est plus intéressant, sans doute, c'est que ce personnage est très rapidement entré dans la légende, et que à partir du premier siècle de notre ère à peu près, une biographie nommée La vie d'Ésope a été rédigée afin de donner un peu de consistance à ce personnage. Et c'est souvent ce texte qu'on connaît, de préférence, disons, aux sources les plus fiables, si l'on peut dire.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que nous avons ici avec Ésope un personnage vraiment intéressant mais mystérieux, esclave peut-être, plusieurs fois vendu, qui aurait été tué parce qu'il aurait soi-disant dérobé des objets sacrés à Delphes. Et dans ce personnage, nous avons une caractéristique qui, alors, est plaisante dans le roman, c'est son physique. Dites-nous, Antoine Bisséré, était-il vraiment si laid ? Nous n'en savons rien, mais en tout cas, il est présenté sans cesse comme cela.
Oui, alors, en tout cas, il est présenté sans cesse comme cela depuis au moins le premier siècle de notre ère. Mais en réalité, c'est une caractéristique physique qu'on lui attribue près de 600 ou 700 ans après, disons, l'époque à laquelle il est censé avoir vécu. Il y a tout lieu de croire que cette caractéristique physique qu'on trouve répétée au seuil de toutes les biographies du fabuliste est en fait une invention tardive du rédacteur de la vie d'Ésope, hein, parce que tous les témoignages antérieurs au premier siècle de notre ère n'évoquent absolument pas son apparence physique. Mais alors il y a plusieurs manières d'interpréter cette invention. D'abord, sans doute, est-ce une influence du personnage de Socrate, qui était lui-même représenté comme extrêmement laid, mais détenteur d'une sagesse merveilleuse, et c'est un peu ce que le personnage d'Ésope, ce qu'on retient en général du personnage d'Ésope à la lecture de sa biographie. Et puis, sans doute est-ce aussi une manière d'en faire l'emblème même du genre qu'il est censé avoir inventé, parce que la fable, dans le discours des rhéteurs antiques, dans le discours aussi des écrivains qui l'ont pratiqué, c'est souvent un genre qu'on présente comme, magnifique par la moralité qu'elle est censée dispenser, mais un peu absurde, un peu ridicule par le récit qu'elle propose. Et donc, Ésope, avec ce corps monstrueux et cet esprit subtil qui est le sien, incarne d'une certaine façon les caractéristiques du genre qu'il est supposé avoir inventé.
Et puis par les éléments même de sa vie, je rappelle, il aurait été esclave plusieurs fois vendu.
Ne vous y fiez pas, c'est un Phrygien. Nous autres, gens de Samos, commettons toujours l'erreur de juger sur les apparences. Les Phrygiens, seigneur Yadmon, sont précisément des animaux faits pour nous étonner. Plus ils paraissent malingres, plus ils sont résistants. Tenez, celui-là. Je l'ai vu porter jusqu'au marché de notre ville des charges de noix propres à briser l'échine d'une bourrique.
Que ne gardes-tu pour toi cet athlète ?
C'est que je ne vends plus de noix, mais des esclaves. Non, vous verrez, seigneur Yadmon, vous verrez, il en va de certaines créatures comme de certains bois précieux. Elles prennent de la valeur avec le temps.
Oh, c'est bon, c'est bon. Tu es mon voisin, hélas. Je te débarrasse d'une bouche à nourrir et tu gagnes une demi-obole. Si j'ai pu de la sorte m'assurer un bon voisinage, n'en demande pas plus. Je te salue, voisin.
La paix sur vous, seigneur Yadmon.
Il t'a volé.
Qu'as-tu donc fait, oh Dieu, pour mériter un tel visage ? Comment t'appelles-tu ?
Ésope.
Et soin de détourner la tête quand je passe.
Remerciez plutôt le sort qui, pour une demi-obole, vous a permis d'enraciner ma grimace dans votre esprit.
À la bonne heure. Voyez donc la grimace d'importance qui va m'empêcher de dormir.
Il faut bien qu'elle serve à quelque chose.
Dans cette vie d'Ésope, Michel Bouquet est Ésope et Jacques Balutin est marchand d'esclaves. C'était en 1965 sur l'ORTF. Antoine Bisséré, dans cette vie d'Ésope, nous avons une narration particulière, une existence réinventée, très bien. Et puis nous avons l'idée qu'il a inventé la fable. Et dès lors, peut-on dire que toutes les fables écrites, pas particulièrement par lui, deviennent ésopienne, c'est une bonne marque, ça, de dire que c'est une fable d'Ésope pour vendre les fables.
Oui, alors on peut le dire comme cela, en effet, mais en fait, le devenir ésopique ou le devenir ésopien de chaque fable est antérieur à la rédaction de la vie d'Ésope. Ce qui est surprenant, c'est que, alors que, comme Ariane Guilleux Coppolani l'a très bien rappelé tout à l'heure, nous avons dans le monde grec archaïque toute une série de fables chez divers poètes antérieurs au VIe siècle avant Jésus-Christ, à partir du Ve siècle, l'habitude semble se prendre d'attribuer à Ésope tout récit ressemblant de près ou de loin à une fable, y compris ceux qui étaient notoirement antérieurs à l'existence présumée du fabuliste. Par exemple, chez Aristophane, on trouve un récit d'une fable, l'aigle et la renarde, et ce récit est attribué à Ésope, alors même que chacun savait que chez Archiloque, un poète qui est antérieur à Ésope, on trouvait déjà cette fable. Alors, en fait, on a la clé de cette attribution systématique chez un rhéteur du 1er siècle de notre ère, Aelius Théon, qui nous explique que on peut appeler les fables de très divers noms, on leur donne des noms très divers, par exemple les fables libyennes, les fables sybaritiques, les fables phrygiennes, les fables siliciennes ou encore fables ésopiques. Et ce que nous dit Théon, c'est que la seule chose qui différencie ces fables, c'est l'indication initiale du genre propre à chacune. Autrement dit, Ésope a dit, ou encore un homme de Libye a dit, ou encore une femme de Chypre a dit, etc. C'est-à-dire que on a l'impression que on a commencé à utiliser un principe de classement des fables à partir d'une certaine époque qui ressemble un peu au principe de classement que nous utilisons encore aujourd'hui parfois pour classer les histoires drôles, vous savez, les histoires de fous, les histoires belges, etc. Et là, c'est un peu comme si finalement, à chaque fois qu'on attribuait une fable à Ésope, cette fable devenait ésopique et que c'est la tradition qui s'est peu à peu imposée.
Et dans cette tradition qui s'impose peu à peu, il y a ce genre très particulier, celui de la fable. Ariane Guillaume-Copolani, vous êtes maîtresse de conférences en histoire ancienne à la Sorbonne Université. Dites-moi, quand nous pensons à un genre très particulier comme celui de la fable, la question qui se pose, c'est à qui s'adresse-t-il ? Parce que nous avons une évocation là qui vient d'être faite. La fable pourrait être classée un peu comme des blagues, il y a une certaine légèreté dans le propos. À qui s'adresse-t-elle ?
Eh bien ça, c'est un vrai problème actuel de la recherche sur les fables. Une réponse nous est donnée donc par le fabuliste Phèdre, qui est lui-même un auteur de fables à l'époque romaine. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit la fable, elle est donc créée par Ésope, et au départ elle est créée plus exactement par des esclaves qui s'en servent comme d'un langage entre eux, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement, puisqu'ils ont besoin d'avoir une parole cachée en quelque sorte qui leur permette de contester sans le dire. C'est une idée extrêmement intéressante qui nous inciterait à voir donc dans la fable une littérature par essence contestataire et même peut-être par essence contestataire socialement. Et ça, je dois le dire, pour quelqu'un qui étudie la littérature de l'Antiquité, c'est un peu le Graal en quelque sorte. C'est enfin, on verrait ici parler, non pas l'élite, non pas Homère qui parle des héros, mais enfin ceux qu'on n'entend jamais, ceux dont la littérature ne nous donne jamais la parole, c'est-à-dire les faibles, les petits et en particulier les esclaves. Le problème, vous voyez, ce serait une espèce de louchébème ou de verlan, en fait, des esclaves. Le problème, c'est que c'est quand même pas très réaliste, cette idée. On peut plutôt penser que Phèdre, qui justement va faire des fables qui au départ sont des petits récits en prose sans prétention, quelque chose de poétique, quelque chose de littéraire, quelque chose qui va concurrencer la grande poésie, eh bien il a un peu ainsi une coquetterie en disant « je prends le genre le plus bas qu'on puisse imaginer et moi je vais enfin en faire de beaux poèmes ». Donc peut-être que c'est pas finalement un louchébème ou un verlan des esclaves. Et quand on regarde les fables, dans les recueils de fables, on n'a pas d'attribution de voilà à qui ça s'adresse. Donc il faut peut-être regarder dans les autres textes que nous avons, textes archaïques, Hésiode, Archiloque, quel est le public. Et ce public, finalement, il apparaît assez varié. Moi, un point qui m'a frappé, c'est que c'est souvent un texte qu'on trouve dans un contexte politique. La fable, elle semble avant tout un élément de l'argumentation, un élément propre à convaincre. Et ça, c'est Aristote qui nous le confirme, et les analyses d'Aristote sont souvent assez convaincantes. La fable, elle est propre pour lui à la démégorie, au fait de s'adresser à tout un peuple, démos. Sans doute justement parce que, par sa simplicité, par son caractère frappant, eh bien, elle peut séduire tout un chacun, elle peut être comprise à plusieurs niveaux. Mais c'est sans doute seulement un des moments où l'on peut prononcer une fable, ce serait dans ce contexte politique où tout un chacun pourrait prononcer une fable, avec un public donc très large, public qui peut aussi être un public plus restreint. On a d'autres attestations où on voit que les fables sont prononcées dans les banquets. Et le banquet, c'est le symposium, c'est la réunion de l'élite. Et chez Aristophane, justement, on a deux personnages, Délicléon et son père Philocléon dans les guêpes. Et Philocléon, c'est un espèce de rustre qui n'est intéressé que par une chose, c'est par aller juger pour gagner quelques sous, parce qu'on est rémunéré quand on juge. Et son fils va l'introduire dans des banquets, donc il essaye de faire monter le statut social de son père. Il lui explique comment raconter des fables et Philocléon va absolument se rater complètement et va se ridiculiser à chaque fois. Donc ça veut dire que les fables, elles peuvent être utilisées dans des contextes sociaux élevés, dans dans des contextes sociaux beaucoup plus larges, c'est quelque chose que l'on doit trouver, en fait, je pense, à tous les étages de la vie sociale et qu'on peut employer un peu dans n'importe quel contexte de la vie sociale grecque. C'est ce qui fait aussi leur intérêt.
Ce qui fait leur intérêt et puis leur complexité. La Fontaine, une histoire en héritage dans le cours de l'histoire, avec un nom qui résonne avec celui de La Fontaine, c'est Ésope dans l'Antiquité. Mais à vous écouter, nous comprenons bien qu'il y a plein d'auteurs de fables, certains anonymes, d'autres connus. Vous nous avez cité Phèdre, nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, il est dans le cours de l'histoire.
Mais tout d'abord, je vous lirai la fable de Phèdre, de laquelle La Fontaine a tiré la sienne. Voici La mouche et la mule de Phèdre. Une mouche se posa sur le timon et gourmandant la mule, « Que tu es lente, dit-elle, tu ne veux pas aller plus vite, prends garde que je ne te perce le cou de mon aiguillon. » L'autre répond, « Tes paroles ne m'émeuvent pas. C'est le maître que je crains, qui, assis sur le siège de devant, d'un fouet flexible, gouverne mon joug et contient ma bouche d'un frein écumant. C'est pourquoi laisse-la ta sotte arrogance, car je sais où il faut ralentir et où il faut courir. » Cette fable peut tourner en dérision l'homme dénué de mérite qui prodigue de vaines menaces.
Voilà, c'est Phèdre, la mouche et la mule, lu par le comédien Georges Chamara en 1968. Avec toutes ces pièces, nous avons quelque chose, moi, qui m'a assez fasciné, c'est cette idée de recueil, de réunion de textes avec un genre qui s'identifie. Ariane Guilleux-Coppolani, justement, dans cette histoire de la fable, vous nous avez dit qu'elles doivent être comprises dans le contexte, nous adorons ça, toujours contextualiser les choses, mais il y a même une évolution du genre. Peu à peu, elle se met en forme. La vie d'Ésope, écrite tardivement, devient, on va dire, la préface de chaque recueil de fables. Il y a vraiment une construction que l'on arrive à identifier.
Oui, il y a une construction qu'on arrive à identifier et on nous dit que le premier recueil de fables a été fait par Démétrios de Phalère. Démétrios de Phalère à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'était un orateur, un philosophe, un homme politique qui était pro-macédonien et qui a été placé comme tyran d'Athènes, pour faire simple, à la suite d'une révolte d'Athènes contre le pouvoir macédonien. Et ce personnage aurait fait un premier recueil de fables. Et si on en croit des fragments de papyrus qui se rapporteraient à ce recueil, eh bien justement ce recueil serait un recueil d'exemples que l'on peut utiliser dans des discours contre tel personnage ou pour prouver telle chose. Et ensuite, on a les nouveaux recueils que nous avons sont les recueils d'époque impériale qui, eux, semblent davantage avoir un usage moral, prouvant tel ou tel aspect de la figure humaine, prouvant tel ou tel aspect des relations humaines. Donc on aurait une évolution de l'usage de la fable et de l'usage des recueils de fables. Au départ, il serait peut-être plutôt là pour aider à composer des discours dont on connaît l'importance dans l'Antiquité grecque, que ce soit à l'époque classique, mais encore à l'époque hellénistique ou à l'époque romaine. Les cités vivent, on fait des discours et on a besoin pour ça de savoir bien composer des discours. Et la fable, c'est un moyen de réveiller son auditoire. Aristote nous explique l'usage rhétorique de la fable en disant que quand on a besoin d'exemples, on peut soit prendre des exemples dans le passé, alors ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus chic, pouvoir faire une analogie entre quelque chose qui s'est passé avant, de préférence avec des héros, des grands personnages, et puis la situation présente. Mais si on n'en est pas capable, eh bien on peut faire quelque chose de plus facile qui est d'inventer des histoires. Et manifestement, à peu près à la même époque, au 4e siècle, on se dit que si on n'est même pas capable d'inventer des histoires, on va les mettre en recueil et ça simplifiera les choses. Et par la suite, donc, les recueils auraient évolué vers une version plus morale, d'une part, et d'autre part, avec Élius Théon, dont parlait Antoine Bisséré tout à l'heure, on aurait des recueils de fables qui serviraient dans le cadre... Élius Théon, lui, il fait de la fable un exercice pour les futurs rhéteurs. Et donc, on aurait sans doute gardé cette fonction de la fable, exercice pour les rhéteurs, et on compose des recueils de fables à ce moment-là, comme exemple à donner aux futurs rhéteurs. Donc, toujours un aspect, d'un côté rhétorique, et puis de l'autre, morale qui se développe.
Maître Corbeau sur un arbre perché, nous les connaissons bien, ces fables de La Fontaine qui nous intéressent dans le cours de l'histoire, mais nous parlons beaucoup d'Ésope et l'envie grandit d'écouter une fable d'Ésope. Eh bien, ça tombe bien, Vanda Bénès est avec nous pour nous en lire une.
L'orateur Démade parlait un jour au peuple d'Athènes. Comme on ne prêtait pas beaucoup d'attention à son discours, il demanda qu'on lui permît de conter une fable d'Ésope. La demande accordée, il commença ainsi. Déméter, l'hirondelle et l'anguille faisaient route ensemble. Elles arrivèrent au bord d'une rivière. Alors l'hirondelle s'éleva dans les airs. l'anguille plongea dans les eaux. Et là-dessus, il s'arrêta de parler. « Et Déméter, lui cria-t-on, que fit-elle ?»« Elle se mit en colère contre vous, répondit-il, qui négligez les affaires de l'État pour vous attacher à des fables d'Ésope. »
Voilà, merci vivement, très belle lecture et mise en perspective, parce que nous sentons bien dans un tel texte qu'il y a la volonté d'avoir une conclusion, une fin de l'histoire. Et dans les fables de La Fontaine, nous pensons souvent à l'idée de morale, il y a la morale de la fable. Est-ce le cas dans ces fables antiques, Ariana Guilleux-Coppolani ?
Alors, c'est le cas dans ces fables antiques, au moins dans les recueils tardifs, où on a donc cet épimétion, cet épilogue, qui va nous dire voilà la signification de cette fable. Mais ça, c'est sans doute quelque chose de tardif, et au départ, ce qui donne le sens de la fable, c'est plutôt une sorte de réplique finale, un peu comme celle que vient de nous donner en exemple ici Démade, qui, par sa réplique finale, en disant aux Athéniens, elle se mit en colère contre vous qui écoutez des fables au lieu de vous occuper des affaires de l'État, et bien donne la morale de la fable. La morale de la fable ici, ce serait, il faut s'intéresser à la politique et non pas à de vains récits. Mais ce qui est passionnant dans cette fable, c'est que justement, c'est une fable. C'est une fable qui est présentée comme telle dans un recueil de fables. Et donc, elle est moins là pour dire que les fables ne sont pas intéressantes et qu'il faut s'en détourner, mais au contraire, pour montrer le pouvoir de la fable, un pouvoir tel que, d'une part, il séduit tellement que les Athéniens, qui étaient en train de se disperser et de penser à toute autre chose, vont d'un coup se remettre à écouter l'orateur. Et ça, c'est vraiment la fonction qui semble pour nous la plus évidente de la fable, un discours alternatif, un discours piquant, un discours qui réveille. Et puis, d'un autre côté, cette fable, eh bien, c'est quand même elle qui va avoir une vertu politique, puisque c'est par elle que Démade va rappeler les Athéniens à leur fonction de citoyen. Et donc, on a un double éloge de la fable dans cette mise en abîme qui est tout à fait séduisante dans cette fable.
Mais elle nous séduisent ces fables, c'est une évidence, mais comme les Grecs de l'Antiquité savent nous séduire.
Dis-moi, noble Socrate, si par hasard tu étais amené à voyager dans les terres lointaines, le ferais-tu en Mercedes coupé cabriolet ?
France Culture.
Ou en Fiat 500 ?
Mille pardons, étranger, mais je ne voyage que par la pensée.
Le cours de l'histoire
est noble. Elle
Xavier Mauduit.
Va plus vite que la lumière.
Oh, ils sont forts ces Grecs, il n'y a pas à dire. Dites-nous, Antoine Bisséré, justement dans ces fables qui nous intéressent tant, il y a la lecture que nous en avons aujourd'hui, mais souvent passée par le filtre de La Fontaine. Pourtant, elles ont une existence longue. Il y a ces fables écrites au fur et à mesure, réunies dans des recueils, qui est toujours présent au Moyen-Âge. Il y a une redécouverte de ces fables à la Renaissance. Antoine Bisséré, vous êtes professeur de lettres modernes à l'Université Côte d'Azur. Et justement, dans votre réflexion sur Jean de La Fontaine et la fable ésopique, il y a cette longue filiation avec un moment particulier, la Renaissance, la redécouverte de ces textes.
Alors, à dire vrai, la fable n'a jamais été oubliée en tant que genre, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, elles sont présentes au Moyen-Âge. Simplement, la Renaissance va jouer un rôle clé pour la fable, comme d'ailleurs pour l'ensemble de la littérature antique, puisque ce qui va être redécouvert à la Renaissance, c'est moins le genre lui-même que la forme gréco-latine qu'avaient pu lui donner les écrivains anciens. Alors plutôt que latin, d'ailleurs la forme grecque du genre, puisque c'est aux alentours des années 1480 que on va redécouvrir le recueil des fables grecques attribuées à Ésope, enfin en tout cas une version de ce recueil, hein, parce que comme nous l'avons suggéré depuis le début de l'émission, il n'y a pas en fait un recueil de fables d'Ésope. C'est un ensemble très hétéroclite, très hétérogène de textes qui ont été rédigés à des époques variées et qui ont été réunis peu à peu. Je parle là même du recueil des fables grecques, qui ont été réunis peu à peu alors qu'ils ont souvent été rédigés par des mains très différentes. Mais on redécouvre dans les années 1480 donc ce recueil de fables grecques très modeste par son élaboration, c'est-à-dire des petits textes en prose avec des moralités qui parfois semblent mal s'adapter, disons, au récit lui-même. Et ce qui est surprenant, c'est que, alors même que la fable était cultivée tout au long du Moyen-Âge sous des formes beaucoup plus élaborées, beaucoup plus raffinées, en vers notamment, la redécouverte de la version grecque des fables va avoir tendance à écraser complètement la tradition médio-latine, c'est-à-dire latine du Moyen-Âge, pour devenir le nouveau modèle à suivre, comme si le prestige de la langue grecque récemment redécouverte et traduite rejaillissait sur la fable elle-même, comme si finalement les fables rédigées en grec devaient avoir valeur de modèle parce qu'elles étaient écrites en grec. Et du coup, c'est le modèle de la fable grecque qui va avoir tendance à s'imposer peu à peu, en tout cas durant les premières décennies du XVIe siècle, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, on a tendance à considérer que le modèle de la fable grecque, en tout cas dite ésopique, en prose, sous la forme d'un récit assez bref, dépouillé, privé de la plupart de ses ornements, est le récit originel. Alors même qu'en réalité, la fable, le genre de la fable, a été cultivé sous des formes extrêmement variées depuis l'Antiquité même, et que ce modèle, redécouvert à la Renaissance, n'est en fait qu'un modèle parmi d'autres.
Bien, restons au XVIe siècle, à la Renaissance, et justement pour saisir combien la fable a pu influencer d'autres modèles, la fable elle-même étant plurielle, nous allons faire un petit tour avec la vie de Lazarillo.
Oh ben j'ai faim! Eh oui, j'ai faim. Et pas le moindre petit crouton de pain. Mes poches sont vides, ma besace aussi. Et avec ça, je ne sais toujours pas où je vais coucher ce soir. Oh là là. Bon. Puisque vous voulez en savoir plus long sur moi, je m'appelle Lazarillo, je suis né près de Salamanque en 1540. Tiens, oh, ça me fait déjà 9 ans. Mon père est mort à la guerre. Ah, ne me demandez surtout pas laquelle, hein, parce que les guerres en ce moment, c'est très embrouillé, on s'y retrouve pas. Ma pauvre mère lave du matin au soir les parquets de l'ouverte de Salamanque. J'ai un petit frère. Oh, puis entre nous, mon ventre creux, ne pas savoir où je vais dormir ce soir, c'est quand même plus important que tout ça. Pour coucher, remarquez, ça peut encore s'arranger. Oh, un tas de paille, un bord dans une église, ça je me débrouillerai. Mais le ventre, c'est une autre affaire, croyez-moi.
Ça, c'est une autre affaire, et on le croit, ce petit Lazarillo. C'est le Théâtre de la Jeunesse en 1960, une adaptation donc de ce roman picaresque du XVIe siècle, hein, 1554, avec cette vie de Lazarillo. Antoine Bisséré, justement, là nous ne sommes pas dans la fable, mais il y a une fraîcheur qui évoque un peu la fable.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est surprenant, et je vous remercie d'avoir passé cet extrait, parce que je trouve ça intéressant que vous ayez rapproché le Lazarillo de Tormes de la fable, mais en fait même, il y a un certain nombre d'hypothèses qui suggèrent que l'auteur du Lazarillo ait pu s'inspirer de la vie d'Ésope pour inventer ce qui sera, je dirais, le modèle prototypique du roman picaresque, hein, puisque on trouve notamment au début de la vie de Lazarillo de Tormes un épisode qui évoque à s'y méprendre un épisode de la vie d'Ésope. C'est celui, je le raconte très brièvement, au cours duquel Lazarillo va réussir à se dédouaner d'une accusation qui était portée contre lui. On l'accuse d'avoir mangé, alors je crois que dans la vie de Lazarillo ce sont des saucisses, mais dans la vie d'Ésope ce sont des figues. Hein. On accuse injustement Ésope d'avoir mangé des figues, on accuse injustement Lazarillo d'avoir mangé des saucisses, et pour prouver que ce n'est pas lui qui l'a fait, il se fait vomir en fait devant ses accusateurs, et puis pointe du doigt ceux qu'il sait être les responsables du larcin en leur demandant de se faire vomir à leur tour, et évidemment ils rendent gorge en avouant leurs méfaits. Et l'épisode donc ne se trouve que dans la vie d'Ésope et dans la vie de Lazarillo de Tormes. Son analogie aussi, enfin cette proximité qu'il y a entre les deux épisodes, a donné à penser que sans doute l'auteur du Lazarillo s'était inspiré de la vie d'Ésope pour écrire son roman, ce qui ne serait pas la moindre des mérites de ce texte biographique, la vie d'Ésope, hein, que d'avoir inspiré un genre qui aura ensuite un succès incroyable au cours du XVIe siècle.
Antoine Bisséré, passionnant en fait, ce cheminement d'une vie d'Ésope fantasmée qui devient un genre particulier, des fables attribuées à Ésope qui deviennent un genre également, mais la fable telle que La Fontaine, on va dire, a pu les écrire, s'inspirant d'Ésope, apparaît à quel moment? Déjà, au moment de la Renaissance, avons-nous des fables de ce type-là ou faut-il attendre le XVIIe siècle?
Des fables du type, je voulais dire,
du type de Jean de La Fontaine, oui.
Oui, alors oui, tout à fait. En fait, d'abord, ce qui est surprenant, hein, c'est que, en réalité, contrairement à ce qu'on pense souvent, les fables en vers sont aussi nombreuses dans l'histoire du genre que les fables en prose. C'est-à-dire qu'on a tendance, justement, en raison même de ce modèle de la fable en grec qui a été un peu promu comme le modèle absolu du genre à la Renaissance, à penser que la fable en prose domine l'histoire du genre. Ce qui n'est absolument pas le cas. En réalité, fable en vers et fable en prose cheminent de conserve tout au long de l'histoire du genre. Genre, aussi bien d'ailleurs dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et à la Renaissance même, en fait, dans les langues vernaculaires, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français aussi, on trouve des fables en vers depuis à peu près le milieu du XVIe siècle, hein, de très nombreux recueils. Alors, bien sûr, ces recueils sont rarement aussi aboutis que ceux de La Fontaine. Et lorsqu'on les lit, on comprend pourquoi les noms, par exemple, de Gilles Corozet, de Guillaume Audan, d'Étienne Valencier en français, ne sont pas restés dans la mémoire collective. Mais La Fontaine ne manquait pas de modèle dans sa propre langue pour la mise en vers des fables. Et le fait de mettre en vers les fables, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas un geste original en lui-même. C'est le talent de La Fontaine qui a propulsé le genre, je dirais, dans la postérité, mais ce n'est pas le geste de mettre en vers qui constitue l'originalité de La Fontaine.
La Fontaine, homme de talent, c'est vrai qu'il a popularisé les fables. Il n'y a pas à dire, il y a des grenouilles, il y a des bœufs, il y a des renards, il y a des corbeaux, et il y a même des dauphins. Bah oui, parce que au moment de d'écrire sa dédicace pour les fables, il s'adresse à Monseigneur le Dauphin.
Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes.
Vanda Benes qui disait, eh bien justement, ce petit écho entre La Fontaine et Ésope. Antoine Bisséré, La Fontaine se revendique d'Ésope. Pourquoi ?
Parce que il s'inscrit par là dans une tradition qui est celle du genre qu'il pratique. En fait, depuis le recueil de Phèdre, au moins, il est d'usage, au seuil d'un recueil de fables, de proclamer qu'on chante les héros dont Ésope est le père. Bon, La Fontaine le dit avec beaucoup plus d'humour que Phèdre ne le fait, en reprenant ce qui ressemble fort à l'invocation à la muse des épopées antiques. Vous savez que la plupart des épopées antiques s'ouvrent par une invocation à la muse qui est censée donner au poète l'inspiration pour réciter les exploits des héros qu'on s'apprête à chanter. Eh bien, La Fontaine, ici, parodie d'une certaine façon l'ouverture de l'Énéide, hein, par exemple, aussi Arma Virumque Cano, je chante les armes, les hommes. Et là, La Fontaine reprend la formule, d'une certaine façon, pour proclamer son allégeance à Ésope. Mais cette allégeance, elle est traditionnelle, d'une certaine façon, et elle ne signifie absolument pas qu'il ait puisé son inspiration dans les recueils de fables grecques qu'on attribue traditionnellement à Ésope. Hein, c'est un geste de pure tradition, et ce qu'on sait aujourd'hui de, comment dire, l'inspiration de La Fontaine, de ses sources précises, hein, c'est qu'il a puisé à pleine main dans des recueils de fables qui sont plutôt des recueils vernaculaires, c'est-à-dire des textes écrits en français ou en italien, par exemple, au XVIe ou au XVIIe siècle, peut-être, sans doute, en latin, et sans doute beaucoup moins aux textes grecs eux-mêmes.
Voilà, oui, parce que non, c'est passionnant d'imaginer La Fontaine, que l'on a si souvent accusé d'avoir pillé Ésope, déjà de saisir que ce personnage Ésope n'a peut-être pas existé. C'est une figure de l'Antiquité. En tout cas, il y a eu quelqu'un, mais tel qu'il est raconté, c'est une totale construction. Et puis, il y a ce va-et-vient constant. Ariane Guilleux-Coppolani, justement, c'est cette réflexion que vous menez dans vos recherches sur cette évocation du passé à partir des différents textes, notamment chez Homère. Ce jeu, en fait, c'est un jeu de temporalité. Ce n'est pas évidemment qu'une histoire littéraire, nous le voyons bien, avec des échos sur le temps extrêmement long quand nous parlons de La Fontaine et d'Ésope. Que retrouve-t-on dans les fables de La Fontaine qui évoquent l'Antiquité, au-delà simplement de dire « je me réfère à Ésope, le père de la fable »
C'est une question à laquelle il n'est vraiment pas facile, je dirais, de donner de réponse. Parce que finalement, c'est mon sentiment en tout cas, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de La Fontaine. Hein, mais mon sentiment, ce serait quand même que, après tout, le texte de La Fontaine, il est plutôt tourné vers son époque. La Fontaine, il écrit comme courtisan dans le système de la cour de Louis XIV. Il écrit pour un public. Je pense que finalement, comme le disait à l'instant Antoine Bisséret, finalement, la référence à l'Antiquité, c'est une référence de tradition, c'est une référence à la fois d'autorité. On est dans une période dans laquelle, bien sûr, il faut se situer par rapport à l'Antiquité, dans la filiation de l'Antiquité pour avoir du poids. C'est aussi sans doute une filiation qui est présentée de manière plaisante. Hein, quand il dit « je chante les héros dans Ésope et le Père », il sait très bien qu'en fait, la fable à son époque est vue comme une tradition populaire, qu'il y a des fables qui circulent, etc. C'est en même temps plaisant que de faire ainsi d'Ésope un espèce d'Homère ou de Virgile. Mais je pense que sur ce point, finalement, en étant profondément quelqu'un qui écrit pour son époque, pour son public, en ayant une référence purement traditionnelle à l'Antiquité, cela même rapproche La Fontaine de l'époque antique, dans lequel la fable, justement, n'est pas encore, pendant un temps très long, n'est pas un genre littéraire à soi. C'est comme je le disais tout à l'heure, on dit logos, mythos, ainos, tout ça, c'est très vague, c'est très général. On a des recueils que tardivement. Pendant très longtemps, la fable, c'est un élément du discours qui doit être utile, immédiat, et qui peut être employé vis-à-vis de plein de publics. La fable, elle trouve sa valeur dans son emploi, sur le moment, face à tel public, à tel moment, avec telle analogie. Et donc la fable, c'est un élément à la fois traditionnel. On peut réutiliser des histoires, mais on va aussi les réutiliser en leur donnant un sens nouveau. On les réutilise pour tel ou tel public. Et sous une forme qui peut être nouvelle, qui peut être en vers, quand on écrit en vers, comme Archiloque ou Stésichore ou Ésope. Pardon, pas Ésope, je pensais à Hésiode, qui peut être en prose. Et ça, c'est la même chose, en fait, finalement, dans l'Antiquité et chez La Fontaine. Et c'est peut-être ce qui donne à La Fontaine la liberté de créer une forme nouvelle dans laquelle la versification qu'il emploie, etc., lui est vraiment propre. C'est le fait que la fable, c'est un tout petit récit qu'on peut utiliser comme on veut, pour le public qu'on veut, pour lui donner le sens qu'on veut.
Antoine Bisséret, justement, dans cette réflexion sur l'antique Ésope, La Fontaine, en fait, est une véritable chance, mais vous nous l'avez dit, par le talent même de La Fontaine. Ces deux mondes extrêmement différents, l'Antiquité, le XVIIe siècle, ce sont deux personnages complètement différents. Ésope est censé être ancien esclave extrêmement laid, et La Fontaine, évidemment beau gosse à la cour de Louis XIV. Nous avons vraiment deux univers, et pourtant ces univers se relient. Il y a aussi, moi j'ai cette impression-là, cette volonté toujours de tirer le fil et d'essayer de comprendre l'origine, ce qui est passionnant, et la volonté de relier au temps les plus lointains. En cela, La Fontaine est vraiment l'héritier de son monde, mais il sait lui-même très bien qu'il invente quelque chose.
Oui, bien sûr. On sent que La Fontaine est très conscient, disons, de la nouveauté de sa démarche, en tout cas de l'originalité et de la réussite de ses fables. Mais en même temps, il est très conscient de reprendre des textes qui sont, de son propre aveu, sus de tout le monde. Si vous lisez ce texte qui est trop souvent passé lorsqu'on commence à consulter, disons, les fables, on passe trop souvent sur la préface des fables, qui est un texte extrêmement intéressant que La Fontaine écrit à l'orée de son recueil, où il explique que il a considéré que ces fables étant sus de tout le monde, il ne ferait rien s'il n'y ajoutait quelques traits qui en relevassent le goût. C'est-à-dire que il présente bien les fables comme un genre su de tout le monde, et pour cause, elles étaient utilisées dans l'enseignement au XVIIe siècle, dans l'enseignement du latin, dans l'enseignement du grec notamment, parce que cette utilisation scolaire de la fable est une utilisation qui remonte d'ailleurs à l'Antiquité grecque, et même sans doute à l'Antiquité mésopotamienne, puisque les premiers recueils de fables qu'on connaisse sont des recueils qui avaient apparemment des vocations scolaires. Mais en tout cas, les fables étant sues de tout le monde, il essaie d'y ajouter des traits, alors qui peuvent être parfois des traits héroïco-comiques, qui peuvent être des traits empruntés à la littérature galante. Donc toute une série d'ornements, disons, qui vont avec la versification qui lui est propre, et qui font de la fable ce genre sous sa plume unique, d'une certaine façon, ou en tout cas ce travail d'élaboration qui est assez unique, encore que, je dirais, juste comme je le disais tout à l'heure, la mise en forme des fables ne soit pas en soi une originalité, mais telle que La Fontaine la pratique, ça, c'est cela peut-être, sans doute, qui est original. Oui.
Et puis il y a un lien entre les fables antiques et celles de La Fontaine, c'est cette notion de conseil. Alors c'est vrai que pour La Fontaine, nous parlons beaucoup de la morale. Il y a une morale, mais souvent extrêmement juste et qui tape bien. Ariane Guilleux-Coppolani, les fables antiques portaient un conseil. Et en cela, elles sont aussi très intéressantes parce qu'elles sont pratiques. Alors, ça ne s'adresse pas aux enfants, en fait.
Non, sans doute pas. Ça ne s'adresse pas aux enfants. En tout cas, dans les premières versions que nous en avons, dans les premières attestations, chez Hésiode, chez Stésichore, chez Archiloque, quand Hérodote nous évoque également Ésope lui-même, eh bien, à chaque fois, et dans la vie d'Ésope même d'ailleurs, même si elle est tardive, ce sont des discours d'adultes adressés à des adultes. Ésope, dans la vie d'Ésope, donc, qui est légendaire, il va pouvoir adresser des conseils par ses fables, aussi bien aux Samiens, qu'il essaye comme ça de protéger contre Crésus, qui est en train de les conquérir et de leur imposer un tribut. Il va s'adresser même à un roi babylonien, parce que là, c'est une partie de la vie d'Ésope qui est tirée d'un recueil babylonien. Il est tout, systématiquement, c'est vraiment de la littérature d'adultes. Ça ne devient de la littérature scolaire, en fait, on ne sait pas exactement à quel moment. Peut-être déjà à l'époque classique dans le monde grec, parce que justement, chez Aristophane, on voit un personnage qui en critique un autre en lui disant « Mais toi, t'es vraiment un ballot et un rustre, tu ne connais même pas ton Ésope. » Alors comment est-ce qu'il aurait pu connaître son Ésope ? Peut-être de manière scolaire. Et Socrate lui-même, quand il est sur le point de mourir, quand il est dans sa prison, étant en train de mettre en vers des fables d'Ésope. Et alors ses amis lui disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Socrate ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et il dit « Ben, j'ai eu un songe qui m'a dit « Concentre-toi, consacre-toi à la musique, c'est-à-dire à la poésie. » Et pour faire ça, je me suis dit que j'étais pas capable d'inventer moi-même des histoires, donc j'ai pris les fables d'Ésope que je connais par cœur, et j'ai pris les premières qui me venaient à l'esprit. Donc c'est quelque chose que l'on connaît par cœur, peut-être de manière scolaire dès cette période, mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi et sans doute avant tout un genre pour les adultes, un genre utilisé dans l'argumentation pour donner des conseils. Et on a dans la fable grecque eh bien, des figures de conseillers qui apparaissent régulièrement. Et on a toute une réflexion sur ce que peut être le conseil. On a une réflexion sur l'efficacité du conseil. Bien conseiller, c'est conseiller au bon moment. Par exemple, c'est pas être un médecin qui, lors de l'enterrement de quelqu'un, vient dire il aurait fallu tel traitement. Parce que là,
ça,
nous dit-on,
c'est trop tard.
Voilà, là, nous dit-on, c'est clairement trop tard. Il y a plein de cas comme ça où on conseille trop tard. Il faut conseiller au bon moment. Il faut conseiller aussi d'une manière qui soit vivante, d'une manière qui ne soit pas du grand discours très long. Une manière qui utilise justement la fable en tant que petit genre.
La fable en tant que petit genre. Pour dire des grandes choses, tel épris qu'il croyait prendre, rien ne sert de courir. Il faut partir à point, effectivement, ça s'adresse peut-être aux enfants, mais non, aussi beaucoup aux adultes. C'est passionnant de vous écouter, Ariane Guilleux-Coppolani, Antoine Bisséré, de nous parler des fables de La Fontaine, mais des fables surtout antiques, ce qui nous donne envie de les relire et d'aller découvrir aussi Ésope. Merci vivement à vous deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi. Pourquoi du comment, comme en science, comme en philo, comme en écho. Oui, le pourquoi du comment est dans l'histoire.
Pour ou contre l'histoire des mentalités. Lorsque j'étais étudiant, l'histoire des mentalités avait le vent en poupe. Les attitudes collectives devant la mort, au XVIIe et XVIIIe siècle, de Michel Vauvel, de même que l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, de Philippe Ariès, font partie des livres qui m'ont donné envie de devenir historien. Mais aujourd'hui, non seulement ce domaine de recherche n'a plus le vent en poupe, mais il est parfois discrédité. Geoffrey Ernest Lloyd, un éminent spécialiste de la Grèce ancienne, a même publié un livre intitulé « Pour en finir avec les mentalités ». Je me suis demandé comment et pourquoi des domaines de recherche que toute une génération avait portés au nu pouvaient perdre leur attrait pour la génération suivante. Dans le cas de l'histoire des mentalités, une partie de la réponse se situe au niveau du vocabulaire. Le mot « mentalité » s'est diffusé dans le langage courant à la fin du XIXe siècle. Né dans un contexte marqué par les débuts de la psychanalyse freudienne, le terme a remplacé rapidement le vieux vocabulaire religieux centré sur l'âme humaine. Ce petit côté scientifique explique sans doute que le mot « mentalité » ait été rapidement mobilisé par les partisans de la colonisation pour justifier la fameuse œuvre civilisatrice de la France. Les universitaires, qui n'échappent jamais complètement aux mutations de leur temps, s'emparent souvent des mots nouveaux pour nommer le domaine de recherche sur lequel ils travaillent. Dans le cas qui nous occupe ici, c'est un philosophe, reconverti dans le domaine de l'ethnologie, qui a joué un rôle essentiel. Je veux parler de Lucien Lévy-Brulle. En 1922, il publie un livre sur ce qu'il appelle « la mentalité primitive » dans lequel il oppose la participation mystique de ceux qu'on nommait alors les « primitifs » à la pensée logique des Européens. Même si Lévy-Brulle reviendra à la fin de sa vie sur cette opposition qu'il jugera trop tranchée, le mot « mentalité » conservera par la suite son ambiguïté. Utilisé pour désigner de nouveaux domaines du savoir, il sera fréquemment suspecté de véhiculer une vision ethnocentriste du monde social. Quand on examine l'histoire de ce domaine de recherche, qu'on appelle l'histoire des mentalités, depuis les années 30, on constate que les historiens ne se sont jamais préoccupés de définir précisément ce mot de mentalité. Ils ont groupé sous cette étiquette des recherches empiriques très diverses pour défendre leur discipline face au développement des autres sciences sociales. Mais à partir des années 80, le contexte politique et intellectuel a changé. Les critiques qui avaient été adressées au livre de Lévy-Brulle sur la fameuse mentalité primitive ont rencontré un écho grandissant, y compris chez les historiens. Je me contenterai dans cette chronique d'un seul exemple. Dans le livre que j'ai évoqué il y a un instant, Philippe Ariès affirmait, je le cite, que le sentiment de l'enfance n'existait pas au Moyen-Âge, car l'enfant était d'abord conçu comme un adulte en réduction. Cette thèse, qui a connu un écho mondial dans les années 70, a été largement rejetée dans les décennies suivantes, car on a reproché à Ariès de projeter sur le Moyen-Âge nos valeurs actuelles. Cette critique a débouché sur un vaste débat concernant l'histoire de la sexualité des enfants, sur lequel je reviendrai dans une autre chronique, car il touche de près à des questions qui sont encore au centre de notre actualité.
Grand plaisir d'écouter Gérard Noiriel, le pourquoi du comment à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwen Guizhou. Cette émission, mais toutes les précédentes aussi, sont à retrouver, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre exploration de Jean de La Fontaine, La Fontaine, une histoire en héritage, avec les courtisans et le fabuliste.